Nous consacrons trois séances de notre Institut biblique à la question de nos rapports avec l'écuménisme. La fois dernière, vous vous rappelez, nous avons parlé de nos rapports avec l'écuménisme protestant et orthodoxe, celui qui a pour institution le Conseil écuménique des Églises. Et aujourd'hui, nous devons nous porter sur la question du rapport avec l'Église catholique romaine, l'écuménisme dans le sens beaucoup plus banal, en France au moins, des échanges entre protestants, et pour nous protestants évangéliques, et les catholiques. La fois prochaine, lors de notre séance de décembre, je ne prévois pas en gros d'exposer, sauf peut-être une très brève introduction, je pense que nous devrions nous exprimer les uns et les autres, nous entretenir sur la base des informations et des propositions que j'aurai exposées aujourd'hui et que j'ai exposées la dernière fois. Il me semble qu'il est souhaitable, notre groupe étant un groupe assez homogène, que nous puissions consacrer toute une heure pratiquement au débat, à l'entretien. Donc je vous invite déjà à noter la chose. Parce qu'évidemment, si vous ne reveniez pas, vous qui suivez les exposés, la conversation n'aurait guère de sens et de profit, je le crains, en décembre. Je souligne que le sujet que nous abordons aujourd'hui est à l'ordre du jour, non seulement pour les évangéliques de France que nous sommes, sollicités de façon nouvelle par certains responsables catholiques, mais aussi pour les évangéliques dans le monde entier. J'ai ici avec moi des documents qui restent confidentiels, donc je ne les lirai pas, mais dont je peux quand même signaler l'existence, des documents qui montrent que les évangéliques sont obligés de travailler la question. Il y a eu des conversations, et j'ai donc un document qui n'est pas encore tout à fait le document final probablement, pas encore publié, issu de ces conversations, des jours et des jours entre théologiens évangéliques et théologiens catholiques sur la notion de mission, mission des chrétiens dans le monde. John Stott en particulier a conduit le groupe évangélique. Il souhaitait que je me joigne à ce groupe et c'est pour ça qu'il m'a envoyé le texte, mais je n'ai pas pu finalement, donc je ne l'ai pas fait. Mais ça s'appelle ERCDOM, le dialogue évangélique catholique romain sur la mission. Et c'est un fait de quelque importance. Les catholiques, de leur côté, avaient délégué des théologiens d'envergure, des gens représentatifs déjà, d'échelons assez élevés dans leur hiérarchie. D'autre part, alors ça c'est encore plutôt à venir, mais un premier texte a été élaboré que j'ai reçu. L'Alliance évangélique mondiale constitue un groupe de réflexion internationale sur le catholicisme romain et les rapports des évangéliques avec le catholicisme romain. Et je n'ai pas encore envoyé ma lettre en réponse, mais je crois que je m'y joindrai, comme il m'invite à le faire. En octobre 85, il devrait y avoir toute une semaine de travail à Madrid là-dessus, pour les participants de ce groupe, après un travail par correspondance, d'échange de textes. J'ai un premier texte. Vous voyez donc que c'est un sujet qui est vraiment dans l'air, sur lequel nos frères compétents sont déjà en train de réfléchir et de produire même des textes. Alors je vais suivre le même ordre exactement que la fois dernière, bien que le sujet se présente un peu différemment. Je vais d'abord exposer la situation jusqu'au milieu du XXe siècle, situation qui est bien connue de la plupart, mais autant nous rafraîchir la mémoire. Parler en deuxième lieu de l'évolution des dernières décennies, en gros des 25 à 30 dernières années, et puis poser la question, en fin de compte, d'une modification de nos attitudes de chrétiens évangéliques, en prenant donc pour référence les attitudes traditionnelles telles qu'on peut encore les observer vers le milieu du XXe siècle. Vous savez qu'au XVIe siècle, les réformateurs brisent avec l'Église romaine de laquelle ils sont issus, parce qu'elle les chasse de son côté. Il semble que si leur réforme avait été acceptée, ils ne seraient pas sortis, mais c'est une façon de dire que l'Église romaine aurait dû se renouveler de manière tout à fait radicale pour obéir à la parole de Dieu. Luther, à la première génération, avec Zwingli et leurs autres collaborateurs de moins grand renom, acceptent d'être excommuniés et de constituer donc des églises, des groupes qui portent également le nom d'église, qui ne sont plus en communion avec Rome. Il faut savoir qu'il ne dénie pas totalement le titre d'église à l'institution qui a le pape pour chef. Une des raisons principalement avancées par Luther, c'est que d'après la seconde aux Thessaloniciens, au chapitre 2, l'Antichrist s'assied dans le temple de Dieu. L'Antichrist pour lui, ça ne fait pas un pli, c'est le pape, puisqu'il prend la place du Christ. C'est le sens même du. Un des deux sens du titre d'Antichrist. Aucune hésitation pour lui, l'Antichrist c'est le pape. Si le pape s'assied dans le temple, c'est que l'Église romaine est encore le temple de Dieu, donc mérite encore d'être appelée Église. Et son titre, le titre d'un de ses grands écrits réformateurs, la captivité babylonienne de l'Église, est très significatif. Le romanisme, si vous voulez, c'est la captivité de l'Église sous le joug d'un système étranger et aliénant, un système d'erreur qui est comparé à l'oppression des Babyloniens pour Israël autrefois. Captivité babylonienne de l'Église. Mais en un sens, les réformateurs ne nient pas quand même qu'il y ait toujours Église. Les réformateurs de la grande réforme magistérielle luthéro-calviniste. Ils ne nient pas qu'il y ait toujours Église, et c'est entre autres pour cela qu'ils ne nient pas la validité du baptême des catholiques romains. C'est une chose qui est un peu moins nette, mais qui est quand même aussi établie du côté romain vis-à-vis du baptême des réformateurs. C'est une position ancienne qui remonte déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ, que le baptême des hérétiques est considéré comme valide pour l'Église romaine. Et Rome, tout en refusant au sens propre le titre d'Église à ces hérétiques que sont les groupes luthériens ou calvinistes, pense que le baptême, s'il a été fait avec l'intention de faire ce que fait l'Église, ce qui peut être admis dans une majorité de cas, est valide. Quelle est la grande raison des réformateurs pour refuser de se soumettre au pape, pour désigner comme captivité babylonienne l'imposition du modèle théologique et institutionnel du catholicisme? Je pense qu'on pourrait tout résumer en disant, ils y voient une mainmise de l'homme naturel, pécheur, sur Dieu et sur sa grâce. Les grands slogans de la réforme sont tous des slogans qui visent à restaurer le droit de Dieu. L'écriture seule passe à la surimposition de la tradition et du magistère de l'Église, qui sont choses humaines et qui étouffent en quelque sorte la libre action de la parole de Dieu dans l'Église. Bien sûr, la question du pape est liée à ce refus d'une autorité humaine placée en pratique, pas en théorie, mais en pratique au-dessus de la parole de Dieu, le pape étant la fine pointe de la pyramide magistérielle, le magistère dans sa plénitude, en personne en quelque sorte. Sola gratia, par la grâce seule, et sola fide, par la foi seule, les deux slogans qui s'ajoutent encore, sont dirigés contre le système des œuvres et des sacrements. Il s'agit là encore d'empêcher l'homme, par ce qu'il fait, de mettre la main sur la libre activité de Dieu pour le salut des hommes. Il s'agit de rendre toute la gloire à Dieu sans rien en partager, avec des causalités coordonnées que seraient les œuvres humaines, œuvres soit morales pour la justification, ou rituelles lorsque les sacrements sont considérés comme des canaux de la grâce qui agissent du fait même qu'ils sont administrés indépendamment des dispositions du cœur. C'est ce que veut dire l'expression ex opere operato. Les sacrements agissent non en vertu des dispositions du cœur du baptiseur ou du baptisé, du célébrant et de ceux qui prennent l'Eucharistie, mais par le fait même qu'ils sont administrés. Alors les théologiens catholiques expliquent que c'est parce que le Christ, par l'intermédiaire du prêtre, est celui-même qui agit. C'est pour honorer la grâce de Dieu, pensent-ils, qu'ils affirment cet ex opere operato. Mais les réformateurs y voient une façon subtile de mettre la main sur sa libre initiative. Et puis, en troisième lieu, c'est encore la mainmise de l'homme naturel sous forme de compromis avec l'idolâtrie païenne que les réformateurs dénoncent dans le culte d'autres médiations que celle de Jésus-Christ, culte des saints, culte vénération mariale. La question de l'Eucharistie étant peut-être une question à la charnière. D'une part, il s'agit d'un sacrement qui porte atteinte à la libre activité de la grâce de Dieu et de son esprit, qui le canalise, cet esprit qui doit demeurer entièrement souverain. Et d'autre part, comme il y a adoration du Saint-Sacrement, adoration d'une créature, estime les réformateurs, il y a idolâtrie. Le catéchisme de Heidelberg, qui a été rédigé un peu plus tardivement, mais qui est très représentatif, appelle dans un de ses articles la messe une abominable idolâtrie. Rome, avec la contre-réforme, vous savez que Rome réagit après une génération avec le concile de Trente, et développe ensuite la contre-réforme, anathémise de manière parfaitement précise plusieurs des thèses de la réforme, le sola fide, le sola gratia, le sola scriptura, pas juste dans ces termes, mais dans des formulations théologiques très, très rigoureuses, et considère comme hérétique, en général, les protestants. C'est certainement la note dominante dans la considération des protestants par les catholiques à partir du XVIe siècle et dans les siècles qui suivent aussi. Parfois, vous le savez, avec persécution violente, vous êtes instruits de ces choses. C'est l'autorité juridique de la hiérarchie, le caractère purement objectif de l'action sacramentelle qui sont mis en avant, justement contre les protestants, ce que les protestants ont rejeté, alors la contre-réforme le souligne, en même temps que la contre-réforme opère une purification morale considérable dans le catholicisme, remet les choses en ordre. Et les excès dans les mœurs du clergé, par exemple, sont tout à fait réprimés. Il y a développement dans les siècles post-tridentins. Tridentin, c'est l'adjectif qu'on forme sur le mot Trente, la ville de Trente où s'est réuni le concile anti-protestant, le concile de la contre-réforme. Dans les siècles post-tridentins, il y a développement surtout selon deux axes, et là c'est très clairement anti-protestant, développement de la mariologie, d'une part, le culte de Marie, avec aboutissement à deux dogmes nouveaux, prononcés ex cathedra manifestement par le pape, en 1854, le dogme de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire le dogme qui affirme que Marie elle-même a été préservée dès sa conception du péché originel, de tout péché. Et en 1950, là nous arrivons au terme de la période considérée, le dogme de l'Assomption de Marie, selon lequel, bien que la terminologie soit parfois ambiguë, elle a été glorifiée dans son âme et dans son corps, de telle sorte que la mort n'a pas représenté pour elle la division entre l'âme et le corps qu'elle représente pour les autres humains. Oui, le dogme de l'Assomption, donc en 1950, qui a été promulgué par Pie XII, est un dogme qui affirme que Marie a été glorifiée dans son âme et dans son corps, au terme de son pèlerinage terrestre, de telle sorte qu'elle n'a pas connu la mort de la même façon au moins que les autres humains. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est morte ou il vaut mieux l'éviter? Ça, c'est assez ambigu. Mais elle n'a pas connu cette séparation violente de l'âme et du corps qui nous rend la mort si effrayante, parce qu'elle est contraire à la définition même de la nature humaine. Et Marie, parce que Dieu voulait la combler de toutes les grâces possibles, n'a pas connu donc cet aspect-là de la mort au moins. Et elle est donc glorifiée en son corps au ciel, comme l'est aussi son fils. Tandis que pour les autres croyants, il y a encore attente du corps glorifié. Il y a eu des efforts de rapprochement au cours de tous ces siècles. Déjà au XVIe siècle, il y a eu quelques conversations. Mélanchthon était un homme irénique qui essayait quand même de voir s'il n'est pas possible, par des conversations ou négociations, de parvenir à quelque chose, les conversations à Ratisbonne. Puis, nettement plus tard, à la fin du XVIIe siècle, le très grand philosophe et savant Leibniz a essayé d'œuvrer au rapprochement protestant, il était luthérien et catholique. Et il a eu une correspondance surtout, avec Bossuet. Mais Bossuet est demeuré de marbre et rien n'a abouti. Alors, à partir de la Première Guerre mondiale, en gros, en fait ça a commencé déjà au XIXe siècle, mais il y a eu la crise moderniste au sein du catholicisme et il a fallu à l'Église catholique la digérer. À partir j'ai indiqué deux mouvements de progression, d'évolution au sein du catholicisme, puis j'en ai cité qu'un finalement, j'en ai annoncé deux, vénération mariale et d'autre part pouvoir du pape. C'est consolidation des pouvoirs de la hiérarchie, de plus en plus rigoureusement définis et efficacement organisés, avec là en 1870, lors du premier concile du Vatican, la définition de l'infaillibilité pontificale. Le pape est infaillible de soi et non pas en vertu de l'accord de l'Église, dit la formule, lorsqu'il prononce sur la foi et les mœurs ex cathedra, c'est-à-dire de sa chair pontificale. Ex cathedra veut dire donc, en parlant de sa chair, en tant que docteur universel des chrétiens, ce titre qu'il considère sien. Alors ce sont là les développements, les nouveaux dogmes promulgués depuis 30, qui les développements du catholicisme jusqu'en 1950. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, malgré ces développements jusqu'en 1950, on note un changement. Un point de vue qui réagit contre le dessèchement juridique et peut-être la superficialité du catéchisme imposé autoritairement par la hiérarchie. Il y a un mouvement de réaction qui glorifie la vie, la profondeur mystique, le caractère de communion qui constitue l'Église. Un mouvement de réaction se produit qui commence à porter des fruits visibles, à se manifester sérieusement dans l'entre-deux-guerres, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième. Dans la décennie 30 en particulier, il y a une théologie du corps mystique, par exemple, qui fait pas mal de bruit à ce moment-là. Il y a un retour, par-delà le Concile de Trente, aux grands docteurs du Moyen-Âge, aux pères de l'Église, dont les vues sont souvent beaucoup plus floues, beaucoup plus chaleureuses aussi, que les définitions très strictes du temps de la Contre-Réforme. Et c'est à ce moment-là qu'un prudent écuménisme catholique commence à s'élaborer. C'est à cette époque, dans la décennie des années 30, que deux hommes en particulier commencent d'être connus. Il y a le père Yves Congard, qui, après avoir pris beaucoup de contacts avec les anglicans, avec les orthodoxes et avec les protestants, il a suivi des cours par exemple à la faculté de théologie protestante de Varago. Le père Yves Congard, qui à l'époque est encore jeune, publie le premier grand ouvrage de réflexion sur l'écuménisme du point de vue du catholique. C'est ce livre que j'ai ici avec moi, « Chrétiens désunis, principe d'un écuménisme entre guillemets catholique ». C'est en 1937, il publie cet ouvrage, dont il a prêché le contenu d'ailleurs précédemment, lors d'une semaine de prière. Et il dit dans un volume de ses souvenirs, que j'ai aussi avec moi, que les étudiants de la faculté de théologie protestante se pressaient à ses prédications, où il avait déjà livré le contenu principal de son livre. Et c'est aussi pendant cette même décennie que l'abbé Paul Couturier de Lyon lance sa semaine de prière, son octave, puisqu'il y avait deux dimanches, son octave de prière pour l'unité des chrétiens. Alors lui, c'est moins un théologien qu'un mystique. Il est protégé par le cardinal Gerlier de Lyon, ce qui fait qu'on le laisse faire. Et il insiste pour que tous, quelle que soit leur appartenance confessionnelle, prient pour l'unité, celle que Dieu voudra, comme il voudra, quand il voudra. Rien n'est dessiné de façon ferme, mais il s'agit d'une prière pour l'unité des chrétiens. Et sa suggestion a beaucoup d'écho. Il y a vraiment des gens qui sont saisis par ce souci de l'unité entre catholiques et protestants dans la décennie 30, aussi bien du côté catholique que du côté protestant. Du côté de l'autorité, cependant, on reste très réservé à cette époque encore. Dans les années 30, les réactions restent très, très douces, semble-t-il, mais déjà perceptibles vers la fin de la décennie au moins. Congar en parle dans ses souvenirs. Il ne va pourtant pas extrêmement loin, par rapport à ce qu'on a vu depuis. Il est d'une prudence admirable. Ce livre est très rigoureux et ne farde en aucune façon sa conviction de catholique, que l'Église catholique est la seule véritable Église qui a la plénitude de tous les biens spirituels, que l'unité ne peut être que réunion à Rome de ceux qui retrouveront, pour le plein accomplissement des bribes de christianisme qui sont chez eux, qui retrouveront là la plénitude des biens du Seigneur. Il le dit de la manière la plus nette et la plus claire. Mais pourtant, l'attitude plus ouverte, la volonté de dialogue, déjà suscite quelques suspicions. Après la Deuxième Guerre mondiale, alors là, l'Église catholique entre dans une période de remous. D'une part, il y a des courants nouveaux qui veulent aller dans le sens de l'écuménisme, comme de beaucoup d'autres innovations. Le catholicisme le plus traditionnel, le plus conservateur, s'est un peu déconsidéré pendant la Seconde Guerre mondiale, par la collusion avec les pouvoirs qui se sont effondrés en 1945. En France en particulier, ce sont des catholiques plus progressistes qui ont milité dans la résistance et qui ont une sorte d'avantage moral à la libération qui leur permet de s'exprimer. Donc d'une part, il y a ces tendances-là, avec renouveau biblique, liberté nouvelle dans les études de l'Ancien et du Nouveau Testament, expérience des prêtres ouvriers, etc. Mais d'autre part, il y a un pape qui essaie de jouer au plus fin avec ces mouvements-là et de les reprendre sous sa coupe, et un entourage, la curie, qui paraît très décidé à contrer ces mouvements nouveaux. Alors pendant quelques années, c'est un peu indistinct, mais en 1950, il est clair que c'est l'élément conservateur à Rome qui l'emporte. Le dogme de l'Assomption de Marie promulgué, une encyclique importante sur certaines questions théologiques et bibliques, et une quasi-persécution d'un homme comme le père Congar. Lui-même en parle, depuis son retour, il était prisonnier dans un des flammes d'Allemagne pendant la guerre, mais à son retour, il sent bien qu'on restreint sa liberté d'action. On ne lui permet pas tellement de publier, ou alors c'est avec beaucoup de réticence, il faut qu'il remanie quelque peu. Et le point culminant de cet ostracisme dont il souffre, il est carrément assigné à résidence. Pas le droit de bouger. C'est en 1954. Là, manifestement, il y a un effort de répression de la part de l'autorité contre les tendances écuménistes qu'il représente. Pendant ce temps-là, je vous rappelle, nous l'avons dit la dernière fois, n'est-ce pas, le mouvement écuménique protestant et anglican orthodoxe s'est beaucoup développé. Les protestants, pendant ce temps-là, donc, je ne raconte pas tout de suite la suite parce que ce sera la période suivante, les protestants, eux, se divisent en deux groupes assez clairement différenciés. Les protestants écuméniques, ceux qui sont heureux de se retrouver au sein du Conseil écuménique des Églises, souhaitent le rapprochement avec Rome, tendent la main à des gens comme le père Congard, ils participent à l'octave de l'unité, et c'est une période où les tendances haute église, sacramentaliste, catholicisante, ont la cote également, dans plusieurs branches du protestantisme. C'est le moment de la grande vogue du mouvement Église et liturgie, en Suisse romande par exemple, c'est la création de Thésée, de la communauté de Thésée en France, et de la croissance graduelle de son influence. En revanche, les évangéliques ne paraissent guère attirés par cet écuménisme en direction du catholicisme. Ils ne sont d'ailleurs pas sollicités. En gros, on les ignore. Ils apparaissent comme quantité négligeable, même pas seulement en France, ailleurs également. Il y a aussi des libéraux, d'ailleurs, extrêmes, qui refusent, par anticatholicisme véhément, ces tendances de rapprochement avec les catholiques. Alors, les raisons des évangéliques, ce sont celles qui nous intéressent, bon, ce sont les raisons des réformateurs. Ils pensent que Rome n'a pas changé par rapport aux positions du Concile de Trente. Elle n'est pas revenue sur les anathèmes qu'elle a lancés. Les vérités principales de la réforme auxquelles les évangéliques demeurent attachés continuent d'être rejetées ou au moins obscurcies dans la théologie romaine et dans la pratique de la piété romaine. Donc, il y a ces raisons traditionnelles, mais ils y ajoutent encore, en les adoucissant peut-être parfois, dénoncer la messe comme idolâtrie, ça ne se fait plus guère, même en 1950. Ils y ajoutent le refus d'être absorbé par tout rapprochement avec Rome. Ils se rendent compte, ils le soulignent avec beaucoup de force, que toute union serait en fait réunion à Rome sous l'autorité du pape, et de cela les protestants évangéliques en particulier ne veulent pas du tout. Je pense que c'est un point principal de leur opposition. Si nous essayons de photographier la situation, il y a une trentaine d'années. Alors, Jean 23, 20. Vous le savez, celui qui devait être un pape de transition a opéré une œuvre historique vraiment très spectaculaire. Je ne pense pas qu'il l'ait fait tellement par son génie, mais parce qu'il a libéré toutes les pressions de la base. La curie, le gouvernement de Pie XII avait essayé de réprimer, comme je vous l'ai expliqué, ces choses qui étaient en fermentation, surtout depuis 1945. Mais ça avait été quand même assez superficiel. Ça bouillait dans la marmite. Et sans attendre que ça éclate, Jean 23 a soulevé la soupape et un jet fantastique a jailli. Et Jean 23 a réussi son coup de façon admirable, n'est-ce pas, en convoquant un concile. C'est là qu'il a eu ce qu'on peut appeler un trait de génie du point de vue de la tactique ou de la stratégie. Il s'est rendu compte que le pape lui-même, comme tous les chefs de gouvernement, chefs d'État dans le monde, ne peut pas grand-chose contre son entourage. Quand il y a un entourage qui est efficace, bien rodé, il peut avoir toutes les intentions qu'il veut, les exécutants réussiront toujours à tourner ces volontés et à les contrer efficacement. Alors il s'est dit, contre cette curie conservatrice qu'il avait élue, hein, en se trompant sur son compte en réalité, il ne pourrait rien faire simplement en souhaitant un changement lui-même et en donnant des directives lui-même. Et il s'est dit, la seule façon de tourner ce pouvoir de la curie, c'est de réunir un concile en amenant à Rome des milliers d'évêques du monde entier. Là, je vais réellement faire changer les choses. Là, la curie ne fera plus le poids. Nous ne pourrons pas empêcher des années de concile, de présence à Rome des principaux dirigeants du catholicisme mondial. Ça, la curie ne pourra pas empêcher que quelque chose bouge. Et voilà, c'est là ce qu'a été son trait de génie. Et effectivement, il est parvenu à ses fins, Jean XXIII, avec un renversement alors énorme de situation. Congar est devenu l'un des experts les plus influents du Concile, et pour bien des constitutions votées par le Concile, il a été l'un des rédacteurs principaux, et ensuite l'un des commentateurs. Pas le décret sur l'écuménisme, qui s'appelle la réintégration de l'unité, parce que ce décret, un autre devait le commenter, puis finalement d'ailleurs il n'a pas eu le temps de le faire, Congar le regrette beaucoup. Mais Congar a commenté plusieurs des autres schémas et constitutions, même votées à la fin des débats. Il a été un théologien majeur. On peut dire qu'en bien des égards, Vatican II a suivi Congar, comme d'autres théologiens relativement progressistes. Et depuis Vatican II, on ne peut guère nier qu'il y ait eu un bouleversement de la situation du côté du catholicisme. Voici quelques points de repère. D'abord les statistiques. La chute des effectifs dans nos pays, vertigineuse de la fréquentation des offices, du nombre des vocations, ça a été très spectaculaire. C'est un changement. Les effets politiques, le passage de la droite à la gauche, d'une fraction notable du public catholique et du clergé catholique, plus encore sans doute. Également observable la diversité conflictuelle au sein du catholicisme, qui a atteint un degré qu'elle n'avait jamais atteint auparavant, des points de vue vraiment d'une opposition extrême, avec la situation d'ailleurs assez comique d'ultra-conservateurs s'opposant au pape. Des gens qui se veulent comme les plus zélés défenseurs de l'autorité pontificale, mais dénonçant le pape parce que le pape lui-même leur semble être moderniste. Ce qui est vraiment un paradoxe qu'on n'aurait pas attendu en 1950. Je voudrais vous lire juste, parce que ça me paraît un paragraphe intéressant, la manière dont Congar lui-même, en 1973, donc ça commence déjà à dater un petit peu, décrit l'évolution visible du catholicisme que certains ont dénoncé comme une protestantisation de l'Église. On parle parfois d'une protestantisation de l'Église catholique. Comment ? La liturgie est célébrée dans la langue de tous. L'étude de l'Écriture, sa place dans la nourriture et l'expression de la vie chrétienne ont rejoint la pratique protestante. On recourt indifféremment à des exégètes de l'une ou de l'autre communion. La parole a retrouvé sa place royale. On reconnaît positivement les charismes et les initiatives des laïcs, ainsi que le sacerdoce baptismal de tous. Non parfois sans diminuer le propre de la position des prêtres ordonnés, tout comme est amoindrie celle de la hiérarchie et du magistère. Amoindrie aussi, voire humiliée, la place de la scolastique. Par contre, les pères connaissent une faveur dont on ne peut que se réjouir. Les églises locales ont plus d'initiative, une collégialité s'affirme. Tout cela, dit Congar, semble plus positif que négatif. Mais dans certaines mises en question des certitudes demeurées fermes jusque-là, pense surtout sans doute à la christologie, la trinité, dans certaines critiques théologiques aventureuses, on peut voir une approche de ce que le protestantisme a présenté de moins bon. Karl Barth a répété plus d'une fois aux catholiques, durant ces dernières années, les dernières années de sa vie, donc de Karl Barth, ne faites pas les expériences pathologiques que nous avons faites et dont nous sommes sortis à grand-peine. Je ne vais pas plus loin, vous avez une petite idée de ce qui semble bouleversement au sein du catholicisme après Vatican II essentiellement. Mais s'il y a des changements évidents, et aussi quant à l'écuménisme donc, qui était à peine autorisé de manière très prudente et maintenant prôné avec des rencontres spectaculaires entre hauts dignitaires des différentes confessions, avec ce qui est sans doute le plus frappant, cette visite du pape lui-même à propos au moment du centenaire de la mort de la naissance de Luther, dans une église luthérienne à Rome, ce qui quand même est spectaculaire. Donc s'il y a tous ces bouleversements, tous n'appréhendent pas les faits de la même façon, et il me semble qu'on pourrait distinguer quatre opinions, quatre diagnostics à ce propos. Deux extrêmes et deux opinions moyennes. Je commence par les deux extrêmes, et puis ensuite je présenterai les deux opinions moyennes. Vous doutez un petit peu déjà que je vais plutôt m'acheminer quant à moi vers une des opinions moyennes. Première opinion, Rome n'a pas changé et ne changera pas, elle ne peut pas changer. Tous ces dogmes, elle les désigne comme irréformables. Elle n'en a renié aucun. Aucun des anathèmes du Concile de Trente, toujours déclaré infaillible, et la même structure de pouvoir, dominée par le pape, continue de fonctionner. Les changements sont en trompe-l'œil, et bien sûr il y a des changements, mais ils sont finalement superficiels, parfois même de simples ruses, suggèrent certains. C'est parce que Rome a perdu le pouvoir sociopolitique qu'elle détenait, ou bien des pays, qu'elle accepte de changer de langage, mais si elle retrouvait le pouvoir absolu, presque, qu'elle détenait, elle reviendrait très vite au système ancien. Alors, cette première opinion, je pense qu'on peut dire que certains catholiques conservateurs, pas les plus intégristes, mais certains catholiques conservateurs et porte-parole officiels, en un sens, seraient prêts à la revendiquer. Rome n'a pas changé et ne peut pas changer, mais en un sens ils seraient prêts à le dire. Les changements, des changements de revêtement, pas beaucoup plus, comme certains pourraient le dire. Bien sûr, ils ne parlaient pas de ruse, hein, mais en gros, ils pourraient dire oui, c'est la continuité qui prédomine. Et puis, un certain nombre d'évangéliques, souvent les plus durs, et souvent dans les pays latins, me semble se rattacher à ce premier diagnostic. Rome n'a pas changé, ne peut pas changer, tout changement intervenu n'est qu'assez superficiel. Il y a quelques rares protestants anti-écuméniques, en dehors des évangéliques, pour le penser aussi. Je crois que l'opinion alors est très rare chez eux. C'est la première opinion. Deuxième opinion, opposée, Rome a radicalement changé. Et sous des dehors de permanence, en fait, il ne reste plus grand-chose du catholicisme ancien. Ce sont les apparences de continuité qui font illusion. Il y a là un fait historique majeur. Vraiment, nous avons une mutation très spectaculaire et qu'on ne prévoyait pas du tout en 1958. Alors, je pense que cette opinion, ce diagnostic opposé, pourrait se trouver chez certains observateurs incroyants, avec l'idée, peut-être, que les religions s'adaptent à des situations culturelles, que le catholicisme était l'émanation d'une situation historique donnée, qui est révolue, que la sécularisation et le pluralisme de la société moderne font que le vieux catholicisme ne pouvait pas subsister, qu'il n'existe plus. Et je pense que certains ont cette opinion parmi les observateurs. Vous avez aussi pour penser un peu, selon la deuxième opinion, au moins un peu, certains intégristes extrêmes dans le catholicisme. Et la tendance Monseigneur Lefebvre serait prête à dire « Rome a changé, Rome s'est renié ». Alors eux, ils pensent que c'est un désastre, qu'ils sont les seuls à garder l'authentique tradition, mais que le gros, disons, du catholicisme officiel est renégat. Je pense que l'opinion, avec un peu plus de modération, malgré tout, est aussi partagée par un certain nombre d'écuménistes protestants qui pensent, oui, qu'il y a eu vraiment un changement très important et qui s'en réjouissent alors.
Rome a radicalement changé. Et il ne faut pas trop s'achoper à quelques formes du passé, vestiges du passé qui hérissent encore notre sensibilité. Rome a vraiment changé. Et je pense qu'il y a un certain nombre de charismatiques qui pensent comme ça. Non sans dire c'est un miracle de Dieu. Vraiment, seul le Saint-Esprit pouvait apporter un tel changement. Et certains disent, voilà, c'est parce que Jean 23 a commencé le concile par une invocation au Saint-Esprit. Il y a cette idée très nettement marquée chez certains charismatiques au moins. Il me semble que cette deuxième opinion a beaucoup moins de crédit depuis Jean-Paul II. Je crois qu'en 75, il y avait pas mal de gens qui pouvaient encore penser comme ça. Mais qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins nombreux qui pensent que Rome a si radicalement changé. Parce qu'à coup sûr, il y a eu un coup de barre à droite sous le pontificat de Jean-Paul II. Troisième opinion, alors, cette fois j'arrive à une opinion intermédiaire. Troisième opinion intermédiaire du côté de la première que j'ai mentionnée, plutôt du côté de la première. Rome a changé sur bien des points importants. Elle s'est adaptée aux tendances de l'humanisme moderne, bien des égards, par exemple, en matière de liberté religieuse dans la société civile. Elle s'est rapprochée des positions de la Réforme sur certains points, ce n'est pas négligeable. Eh bien, par exemple, sur l'Eucharistie, la position officielle serait sans doute plus proche maintenant qu'elle ne paraissait il y a quelques décennies, mais je pense que c'est sur la justification par la foi, la grâce de Dieu comme source unique du salut, par exemple, que la chose serait la plus spectaculaire. Mais, toujours de cette opinion, donc intermédiaire, mais l'essence du catholicisme est toujours la même. Il y a des points importants de modification, cela on ne peut pas le nier, ce n'est pas simplement superficiel, mais ce qui fait l'esprit profond du catholicisme, cela alors on le retrouve encore intact et même peut-être plus virulent qu'avant, plus habilement mise en œuvre. L'essence du catholicisme qui représente l'idée du Christ continué dans l'Église, la substitution de l'Église au Christ, pratiquement, comme source du salut, cela, alors, on ne le trouve en aucune manière estompé, mais plutôt encore aggravé. Voilà cette opinion qui est en particulier celle de l'observateur italien vaudois du Concile, Vittorio Subilia, S-U-B-I-L-I-A, qui a écrit deux ouvrages très importants sur le nouveau visage du catholicisme, et il est persuadé que les changements, qu'il ne veut pas minimiser autant que la première opinion, mais que ces changements ne change pas l'essentiel dans le catholicisme. Et son jugement est donc un jugement à lui fort négatif, puisqu'il n'est pas catholique. Je dirais qu'en un sens, les théologiens catholiques les plus représentatifs, les plus cotés, dans le monde académique en tout cas, ceux qui sont responsables de la revue Concilium par exemple, au fond tiennent un discours ou posent un diagnostic assez voisin. Bien sûr, eux évaluent les choses autrement, mais leur effort, c'est de dire les changements importants ont eu lieu, et il fallait qu'ils étaient nécessaires, etc., mais l'essentiel du catholicisme n'est pas atteint. Nous sommes dans la vraie tradition, ce sont les conservateurs qui ne sont pas vraiment dans la vraie tradition parce qu'ils ne savent pas s'adapter, parce qu'ils demeurent accrochés à des choses périphériques. Le vrai génie du catholicisme est un génie d'assimilation, d'adaptation à l'époque à laquelle on vit, et en un sens, ces théologiens progressistes revendiquent précisément la continuité, non pas superficielle, mais fondamentale. Donc en un sens, ils sont assez bien d'accord avec cette opinion que je mentionne en troisième lieu, opinion intermédiaire. Quatrième opinion, vers laquelle je tends davantage, après avoir été plutôt de la troisième, je vous avertis déjà, mais en même temps, je n'abandonne pas tout de la troisième. Rome a changé sur des points très importants, s'adaptant et s'alliant aux tendances de l'humanisme moderne, en se rapprochant parfois de la réforme. J'emploie à peu près le même libellé que pour la troisième opinion, mais en appuyant encore un peu plus. Parfois même des positions évangéliques, si on les distingue des positions protestantes en général. Mais il n'est presque plus possible de former un jugement qui s'applique à l'ensemble de l'Église romaine. Nous avons maintenant une telle cacophonie, une telle diversité, le catholicisme est devenu un conglomérat de choses si hétérogènes qu'on ne peut plus vraiment dire en une phrase quelque chose qui soit valable de manière suffisamment englobante. Il y a des pans de catholicisme traditionnel qui subsistent, rénovés, nettement rénovés. Et là, peut-être que ça correspond en gros au diagnostic de Soubilia. C'est sans doute un catholicisme majoritaire parmi les laïcs et celui qui correspond aux prises de position les plus officielles de la hiérarchie. Surtout du côté de Rome même, au Vatican. Donc des pans de catholicisme assez traditionnel, en même temps fortement rénové. Mais il y a aussi des mouvements très divergents. Et qui sont puissants, qui ne sont pas de petites choses marginales qu'on pourrait ignorer. Il y a des courants modernistes qui, en certains pays au moins, sont presque majoritaires, et en tout cas chez les clercs. En un sens, je pense qu'on peut dire que sont plus conservateurs les laïcs, dans leur majorité, et puis les instances supérieures, la curie et le pape. Mais que les échelons intermédiaires de la hiérarchie, en particulier les prêtres, eux sont souvent alors beaucoup plus fortement marqués de tendances modernistes, soit en gros, essentiellement, soit du côté doctrinal, proprement dit, philosophique ou critique, soit du côté politique. Les deux pouvant très bien s'associer aussi, hein, un peu du reste. Mais un élément qui me semble insuffisamment pris en compte par beaucoup d'observateurs, un élément qui me paraît très important, c'est qu'en matière d'enseignement théologique, mais c'est à 98% au moins des thèses de type moderniste, que nous dirions libéral, chez les protestants qui sont enseignés sur la Bible. Il suffit d'ailleurs de prendre des notes de la ville de Jérusalem ou de Jacob. Si vous lisez les choses que publient les professeurs de l'Institut catholique à Paris, c'est incroyable. Donc, ça c'est un fait, et on ne peut pas dire que ce soit marginal, même si Jean-Paul II n'en dit pas autant. D'ailleurs, je crois pouvoir dire vraiment de source sûre que même du côté des évêques il y a des réticences énormes. Pourtant les évêques sont plus conservateurs que les théologiens et que les simples prêtres en général. Que même du côté des évêques, les directives de Rome sont reçues avec beaucoup de mauvaise humeur, et que certains représentants importants du catholicisme français ont fait dire par les protestants, par leurs amis protestants et œcuméniques, ce qu'ils voulaient faire dire à Jean-Paul II, parce qu'ils ne pouvaient pas le dire eux-mêmes lorsqu'il a rendu visite à la France. Vous voyez, vraiment là, il y a une réalité qui appartient à l'arrivée du catholicisme aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse dire c'est Jean-Paul II qui définit les choses. Ah, pas seulement. Quand il y a un tel pourcentage de clercs et de docteurs du catholicisme qui disent autrement. Et d'autre part, vous avez aussi des courants évangéliques. Je ne pense pas qu'on puisse le nier. Évangéliques, entre guillemets, parce que tous les points doctrinaux qui nous tiennent très à cœur ne sont pas reconnus clairement. Mais bon, j'ai lu certains témoignages de prêtres charismatiques, par exemple, mais qui vraiment avaient exactement l'air, l'allure et finalement le contenu des témoignages que nous publions dans Le Bon Combat. Enfin, ils appelaient ça leur expérience de l'esprit, mais c'est vraiment l'expérience que nous faisons, qu'ils avaient faite aussi. Oui, c'est leur conversion, exactement. Oui, parfois. Oui, oui, et même ils peuvent dire conversion, oui, oui, oui. Et vous avez, et c'est au plan individuel, mais vous avez aussi des groupes de prière, qui sont vraiment, qui se rapprochent beaucoup par ce qui est concrètement vécu de ce que nous pouvons trouver dans nos milieux évangéliques. Et moi, je n'hésite pas à dire qu'il y a certains catholiques, y compris même des prêtres, dont j'ai l'impression qu'ils sont plus proches de moi, ou dont je suis plus proche, qu'une majorité sans doute de protestants rattachés à la Fédération protestante. Alors là, vous avez donc de ces mouvements divergents qui rendent très difficile une opinion englobante. En plus encore, il me semble que à cette opinion pourrait appartenir la reconnaissance qu'il y a des pans de catholicisme qui sont durablement modifiés, donc il est peu envisageable qu'ils soient, en cas de changement historique, annulés et par retour à ce qui était plus ancien. Je pense que la mentalité sacrale et la structure philosophique, la vue du monde qui était caractéristique de l'ancien catholicisme, c'est fini durablement. Je pense également que, quant à la liberté de conscience, c'est de façon vraiment sincère qu'une très très grosse majorité de catholiques aujourd'hui ne pensent plus comme on pensait autrefois dans le catholicisme, et qu'il n'y a pas là spécialement à redouter une espèce de roublardise de la part des catholiques, si jamais ils n'avaient plus de pouvoir, bien que les tentations soient pour les baptistes comme pour n'importe quels autres présentes. Oui, il me semble qu'il y a là un changement d'attitude fondamentale qui est durable. N'est-ce pas, les protestants se sont plaints, et à juste titre, dans les temps anciens, de persécutions dans la société civile, parce que les catholiques avaient un pouvoir social énorme, comme en Espagne, jusqu'encore il y a assez peu de temps, en Amérique du Sud, dans bien des endroits. Là, il y a eu des changements qui, je crois, sont des changements réels. Vraiment, les attitudes ont changé, les théories admises, et je crois jusqu'au pape compris. Et sur la tolérance dans la société civile, je pense qu'il ne faut pas dire que c'est un simple revirement tactique, parce qu'ils n'ont plus le pouvoir maintenant. Je crois que c'est plus profond, que c'est plus durable. Alors bien sûr, oui, alors les intégristes, bien sûr, seraient aussi un de ces courants. Alors lui, carrément marginal, mais quand même non négligeable. Alors là, pour eux, évidemment, c'est le vieux catholicisme. Mais c'est vous dire un conglomérat des tendances extrêmement diverses. Si Jean-Paul II réussit dans son entreprise de réunion, de restauration d'une certaine unité dans ce chaos, on pourra dire peut-être que l'Église romaine a réussi une mutation aussi importante que les mutations qu'elle a connues au 4e, 5e siècle, lorsque d'église persécutée elle est devenue église établie, ou lors de la réforme et de la contre-réforme. Là aussi il y a eu des bouleversements énormes, on pourrait dire, si tout n'éclate pas, si Jean-Paul II réussit, ou son successeur, ça pourrait être une opération d'une amplitude semblable, peut-être. Dans le même temps, vous voyez, je décris la situation dans les dernières décennies, les évangéliques ont modifié nettement leur attitude, au moins en dehors des pays latins. Je pense que la France est un peu dans une situation intermédiaire à cet égard. En gros, les évangéliques des pays latins ont gardé à peu près l'attitude de 1950. Les protestants des pays anglo-saxons ou en Hollande, ou même je pense en Allemagne, peut-être un peu moins, eux ont changé quand même assez nettement dans leur majorité d'attitude. À la limite, certains d'entre eux, nous voyons pas pourquoi les catholiques ne seraient pas considérés comme une dénomination de plus. Il y a des différences entre les luthériens, les réformés, les pentecôtistes, nous sommes ensemble, pourquoi pas aussi les catholiques, puisqu'il y a diversité de toute façon entre nous. Et il y a eu des tensions, ça j'ai eu aussi l'occasion de le savoir directement, des tensions assez fortes dans certains mouvements évangéliques internationaux, parce que d'un côté, les anglo-saxons en particulier trouvaient qu'il fallait être beaucoup plus ouvert, accueillant aux catholiques, et que les représentants des pays latins, alors, étaient beaucoup plus réservés, parfois carrément très opposés. Certaines tensions subsistent d'ailleurs dans un mouvement qui n'est pas strictement évangélique, mais qui est de façon assez prédominante évangélique, ou au moins, disons, proche des évangéliques dans son centre de gravité, comme la société biblique, l'alliance biblique universelle. Là, nous avons une situation assez intermédiaire. Les évangéliques y sont fortement représentés, beaucoup plus influents qu'ils ne le sont dans les organismes écuméniques. Mais en même temps, ils ne sont pas seuls. Et alors, en particulier dans les pays anglo-saxons, il y a une collaboration avec les catholiques qui est presque effrénée. Vous voyez. En France, il y a parfois un peu de tirage, je crois qu'il faut le reconnaître, entre ceux qui souhaitent aller plus loin, ceux qui souhaitent qu'on aille moins loin. Là, ça existe. Mais il y a un changement d'attitude qui est certain, surtout avant Jean-Paul II. Depuis Jean-Paul II, là encore, les choses sont revenues un peu dans une situation antérieure. Alors, devons-nous modifier nos attitudes? Je me demande s'il vaut mieux que je laisse ma réponse à cette question, selon mes notes, à la fois prochaine, puisque j'ai dit que je commencerai peut-être par quelques remarques. En seriez-vous d'accord que nous opérions de cette façon? Oui.
Vous avez exactement dit la lecture de cette excellente littérature, l'unité des chrétiens, introduction à l'œcuménisme, et il y a là-dedans un article du père Congar, qui pour moi mon voyage, de Pie IX à Jean XXIII, et il dit des choses qui sont renversantes. Ouais, je ne veux pas ouvrir le débat, mais c'est le numéro 46 de cette revue Unité des chrétiens, dont j'ai demandé un bon exemplaire à l'un sur l'islam, il a l'un sur l'évangile qui est paru plus récemment. Ah, c'est ça. Je demande qu'il n'y ait pas complètement